Boudabé. Vous êtes néphrologue dans le service de néphrologie transplantation rénale à l'hôpital Necker. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'atteinte rénale de la rhabdomyolyse et de sa prise en charge en médecine intensive réanimation. Première question, qu'est-ce que la rhabdomyolyse ?
Alors tout d'abord, une courte introduction sur ce qu'est la rhabdomyolyse. Comme vous le savez certainement, il s'agit d'une destruction aiguë des fibres musculaires squelettiques et les causes de rhabdomyolyse sont nombreuses. Elles sont le plus souvent acquises, par exemple au cours du Crush syndrome, d'une ischémie prolongée, d'un effort intense, mais elles peuvent également être infectieuses, médicamenteuses et il existe des causes rares génétiques qu'il faut savoir reconnaître. Dans nos hôpitaux, les trois causes qui prédominent sont généralement l'immobilisation prolongée, le Crush syndrome et l'ischémie vasculaire. Le diagnostic est le plus souvent évident, mais il faut toujours avoir en tête que certains patients peuvent se présenter directement sous la forme d'un coma et ou d'un choc hypovolémique, au cours desquels il faut donc savoir penser au diagnostic lorsque le contexte n'est pas évident. Et quelle que soit la cause de la rhabdomyolyse, il existe généralement un mécanisme commun au sein de la cellule musculaire qui consiste en l'apparition d'un déficit en énergie, en ATP, qui va être à l'origine de la destruction de pompes à calcium. Et l'ensemble va aboutir à la mort de la cellule musculaire et à une nécrose. De nos jours, le diagnostic repose encore principalement sur le dosage d'une enzyme, la créatine kinase, qui est contenue dans les cellules musculaires et qui affirme le diagnostic lorsqu'il est supérieur à 1000 unités par litre ou 5 fois la normale selon les études. Et nous aborderons les autres biomarqueurs dans un second temps. Et les principales complications de la rhabdomyolyse sont secondaires au relargage du contenu de la cellule musculaire dans la circulation sanguine, avec en particulier un risque d'hypercalémie qui peut mettre en jeu le pronostic vital, un risque d'hypocalcémie qui est lié à la chélation du phosphate contenu dans la cellule musculaire qui peut parfois être très profonde, et un risque d'hypovolémie qui est particulièrement importante au cours du Crush syndrome de par l'apparition d'un troisième secteur lié à la formation d'un volumineux œdème musculaire. Et enfin, un risque majeur d'insuffisance rénale que nous allons donc développer aujourd'hui, qui est important car l'insuffisance rénale est fréquente et associée à une morbimortalité importante.
Deuxième question, quelle est la physiopathologie de la rhabdomyolyse ?
La physiopathologie de l'atteinte rénale de la rhabdomyolyse enjeu trois mécanismes principaux dans lesquels la myoglobine, qui est une protéine contenue dans les cellules musculaires, est toujours impliquée. La myoglobine, c'est une protéine qui est voisine de l'hémoglobine, comme son nom l'indique, dans sa structure mais également dans ses fonctions, car elle contient une chaîne de globine et une molécule d'hème et joue le rôle de transporteur d'oxygène dans le muscle. Et elle présente un petit poids moléculaire de l'ordre de 17-18 kilodalton, ce qui lui permet d'être librement filtré par les glomérules et d'arriver donc jusqu'au tube. Alors le premier mécanisme qui est mis en jeu dans l'atteinte rénale de la rhabdomyolyse est l'apparition d'une ischémie rénale. Celle-ci, elle est secondaire à une vasoconstriction intrarénale qui est favorisée par la myoglobine qui va entraîner ce qu'on appelle un scavenging du monoxyde d'azote, c'est-à-dire une diminution de cette substance vasodilatatrice et donc une augmentation de la vasoconstriction. Et de plus, cette ischémie intrarénale, elle est très souvent augmentée par l'hypovolémie induite par l'œdème musculaire et la réduction des apports hydriques, notamment chez les patients qui restent longtemps allongés au sol. Cette déplétion volémique, elle va elle-même activer les systèmes sympathiques et réunir en jetant signal d'ostérone et finalement entraîner une vasoconstriction des artérioles afférentes. Le deuxième mécanisme de toxicité rénale, qui est probablement des plus importants, c'est une toxicité tubulaire directe de la myoglobine. En effet, la myoglobine est capable d'induire directement une peroxydation des lipides membranaires et de plus, elle est réabsorbée au niveau du tube proximal par le complexe cubuline-mégaline et à ce niveau, elle va être métabolisée, ce qui entraîne la libération notamment de l'hème qu'elle contient et secondairement de son atome de fer. Et tous deux vont participer lorsqu'ils ne peuvent plus être métabolisés, lorsqu'ils dépassent les capacités de défense antioxydante de la cellule, eh bien à la formation de radicaux libres de l'oxygène. Enfin, le troisième mécanisme consiste en la formation de cylindres de myoglobine, cette fois dans les tubes distaux, soit par une précipitation directe de la myoglobine, soit par sa précipitation avec l'uromoduline. Et cette précipitation, elle est largement favorisée par le pH urinaire acide, car on sait que 50% de la myoglobine va précipiter un pH urinaire inférieur à 5,7. De même, l'hypovolémie est un facteur très nettement aggravant de cette situation. Enfin, en parallèle de ces trois principaux mécanismes qui sont les plus connus, il est maintenant également très bien démontré que l'atteinte rénale de la rhabdomyolyse présente également une véritable composante inflammatoire, avec en particulier un rôle pathogène des macrophages qui est très bien démontré dans des modèles notamment murins de rhabdomyolyse. Il existe en effet de nombreuses données dans ces modèles qui mettent en évidence que l'apparition d'un infiltrat macrophagique est très précoce dans l'atteinte rénale et qu'elle va jouer un rôle dans l'atteinte rénale aiguë, donc dans l'insuffisance rénale aiguë, mais également dans dans le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique, et en particulier dans le développement de la fibrose. Et dans ces modèles, le fait de dépléter les macrophages des animaux permet de prévenir quasiment entièrement le développement d'une insuffisance rénale.
Troisième question, quels sont les biomarqueurs les plus pertinents pour le diagnostic de la rhabdomyolyse et ce, pour prédire la survenue d'une insuffisance rénale?
Alors concernant le diagnostic et la prédiction de l'insuffisance rénale, donc tout d'abord le diagnostic de la rhabdomyolyse, donc comme abordé plus tôt, le dosage des CPK reste clairement le gold standard qui permet d'affirmer ce diagnostic, et sa demi-vie plasmatique est relativement longue, de l'ordre de 42 heures, et donc on ne passe généralement pas à côté. Au contraire, le dosage de l'hémoglobine qui reste très intéressant, il faut prendre en compte que la demi-vie est très courte, de l'ordre de 3 heures avec une élimination essentiellement hépatique, et donc la normalité ne peut pas complètement exclure ce diagnostic. Maintenant, concernant l'insuffisance rénale, habituellement, les marqueurs classiques, c'est-à-dire l'élévation de la créatine et ou l'apparition d'une oligoanurie, sont suffisants pour dépister l'insuffisance rénale. À noter néanmoins que lorsque vous êtes devant une discordance, devant par exemple un tableau de rhabdomyolyse d'apparence peu sévère, et au contraire une élévation de la créatine extrêmement importante, il faut d'une part bien sûr rechercher une autre cause à l'atteinte rénale, mais également réaliser un dosage de la cystatine qui, contrairement à la créatinine, n'est pas influencée par la masse musculaire ni par l'éventuelle libération de créatinine par la rhabdomyolyse en tant que telle, et qui va donc permettre de confirmer ou d'infirmer la présence d'une insuffisance rénale sévère. Maintenant, plus intéressant peut-être, concernant la prédiction du risque de développer une insuffisance rénale lorsque l'on a une rhabdomyolyse, eh bien, il n'y a pas de corrélation directe entre le taux de CPK et la sévérité de l'insuffisance rénale. Cependant, on sait que lorsqu'une atteinte rénale est présente, les taux des CPK sont généralement très élevés et globalement au moins supérieurs à 5000 unités par litre. À noter cependant que dans les différentes études, c'est le pic des CPK qui est associé au développement d'une atteinte rénale et non forcément la valeur initiale à l'admission. Et ce pic est généralement tardif, 24 à 36 heures après la lésion, et donc il est finalement assez compliqué de prédire l'apparition d'une insuffisance rénale sur le simple dosage du CPK, et généralement, si c'est le cas, on arrive souvent un peu après la bataille. À l'inverse, le dosage de la myoglobine dans le sang est un marqueur séduisant parce que, au contraire des CPK, la myoglobine est directement impliquée dans la physiopathologie de l'atteinte rénale, et donc son niveau est mieux associé au développement de l'insuffisance rénale. De plus, le pic de myoglobinémie est généralement beaucoup plus précoce dans les 12 heures qui suivent la rhabdomyolyse, et une réascension de la rhabdomyolyse après une éventuelle décroissance permet par ailleurs de diagnostiquer une rechute, ce qui n'est pas forcément le cas avec les CPK. De manière assez intéressante, dans une étude très récente qui a été menée par le groupe français des intensivistes néphrologues, sur 387 patients qui présentaient une rhabdomyolyse sévère, qu'ils définissaient par un taux de CPK supérieur à 5000 unités par litre et une admission en soins intensifs ou en réanimation, eh bien 81% des patients développaient une insuffisance rénale. Et en analyse multivariée, le risque de développer une insuffisance rénale au moins stade 2 selon la classification de Katigo était fortement corrélé à l'admission, avec un taux de myoglobine supérieur à 8000 unités par litre. Les autres facteurs qui étaient indépendamment associés au développement d'une insuffisance rénale étaient la nécessité d'instaurer une ventilation mécanique, et ainsi qu'également, à l'admission, le taux de phosphate, de potassium et de bicarbonate. Alors, ces électrolytes sont probablement plus le reflet de la sévérité de la rhabdomyolyse, mais ils peuvent également participer directement à l'atteinte rénale, en particulier dans le cadre de l'apparition de cristaux phosphocalciques. D'autres biomarqueurs ont pu être proposés dans différentes études, telles que par exemple NGAL ou KIM-1. Cependant, ces marqueurs, bien que très sensibles, sont trop peu spécifiques, car ils peuvent s'élever dans un très nombreux cas de différentes souffrances d'organes, et pas forcément le rénal. Et donc, c'est compliqué de les utiliser dans ce contexte pour prédire l'apparition d'une insuffisance rénale. Donc en résumé, les principaux facteurs prédictifs et biomarqueurs de l'apparition d'une insuffisance rénale au cours de la rhabdomyolyse sont directement liés à la sévérité de celle-ci et peuvent être appréciés par l'importance des troubles hydroélectrolytiques, le dosage de la myoglobine à l'admission et les critères habituels de sévérité clinique. Par ailleurs, en deçà de 5000 unités par litre de CPK, en tout cas au pic, l'atteinte rénale est peu probable, bien sûr si tant est que le dosage a été réalisé dans les 24-48 heures qui suivent le diagnostic.
Quatrième question, quelle est la prise en charge de la rhabdomyolyse et notamment la place de l'alcalinisation ou encore de l'épuration extrarénale précoce.
Alors maintenant que nous avons bien compris la physiopathologie de l'atteinte rénale au cours de la rhabdomyolyse, on comprend mieux pourquoi le point clé de la prise en charge est donc de corriger l'hypovolémie afin de maintenir au mieux la perfusion rénale, d'entretenir un flux tubulaire de myoglobine et de limiter sa précipitation. Et donc le remplissage vasculaire doit débuter finalement dès la phase préhospitalière avec des quantités souvent assez, voire très importante de soluté qui sont administrées à la phase initiale de la réanimation. Alors le volume exact administré est finalement impossible à déterminer puisqu'il va être très dépendant de chaque patient, de sa volémie et de la cause de la rhabdomyolyse. Par ailleurs, concernant le soluté administré, il n'y a à ce jour aucune étude randomisée de bonne qualité qui a véritablement comparé ces différents solutés en réanimation. Ce que l'on sait, c'est que, bien sûr, le sérum physiologique, le NaCl 0,9%, est le plus utilisé car il est le plus accessible et le moins coûteux, et il présente l'avantage de ne pas contenir de potassium chez les patients qui peuvent développer une hyperkaliémie. Cependant, ce soluté a l'inconvénient d'être riche en chlore, ce qui expose le patient, lorsqu'on infuse de larges quantités de soluté, bien au développement d'une acidose métabolique hyperchlorémique qui risque d'être délétère dans cette situation. Et donc, si notamment on a du mal à corriger le pH urinaire, l'alternative est l'utilisation de solutés balancées, telles que le ringeur lactate, qui ont cette fois l'avantage de ne pas aggraver l'acidose tubulaire et donc la précipitation de myoglobine, mais néanmoins tout de même les inconvénients d'être plus coûteux et de contenir une faible quantité de potassium. Enfin, concernant les solutés, le débat persiste toujours quant à l'intérêt d'utiliser des bicarbonates dans cette indication. C'est vrai que théoriquement, l'utilisation de bicarbonate à 1,4% a l'avantage d'abord d'hydrater les patients grâce à un contenu riche en sel, ensuite d'alcalaniser et enfin de diminuer la peroxydation des lipides membranaires par un possible effet direct des bicarbonates. Cependant, il faut déjà prendre en compte que, dans la majorité des cas, la simple correction de l'hypovolémie, donc même sans bicarbonate, va être suffisante pour augmenter le pH urinaire. Et à l'inverse, l'administration de bicarbonate n'arrivera à augmenter le pH urinaire que si on a réussi à restaurer une volémie correcte. De plus, de manière assez intéressante, un essai randomisé en 2013 montrait chez des patients en périopératoire d'une chirurgie cardiaque que lorsqu'on randomise les patients en deux groupes pour avoir ou non des bicarbonates, eh bien les patients qui recevaient ce traitement et qui avaient effectivement un pH urinaire de l'ordre de 7,5 n'avaient pas de diminution du risque d'insuffisance rénale aiguë et avaient au contraire une augmentation de la mortalité. Alors, il ne présentait pas forcément une rhabdomyolyse, mais ça ne plaide pas forcément en faveur de l'utilisation des bicarbonates. De même, dans le cadre de la rhabdomyolyse, il faut toujours avoir en tête que l'alcalose, au contraire, va augmenter le risque de la précipitation phosphocalcique dans les tissus mous et de la précipitation phosphocalcique au sein des cavités urinaires et va majorer le risque d'hypocalcémie. Il n'est donc probablement pas conseillé d'utiliser systématiquement des bicarbonates dans cette indication. Et si on débute des bicarbonates au cours de la rhabdomyolyse, eh bien, il est probablement ensuite licite de les interrompre dès que le pH urinaire est supérieur à 6,5 et ou si des signes d'hypocalcémie apparaissent. Alors maintenant, concernant l'épuration extrarénale, certains patients, malheureusement encore trop souvent, vont développer une insuffisance rénale qui va nécessiter de débuter une épuration extrarénale. Et principalement, en fait, dans deux situations au cours de la rhabdomyolyse, soit à la phase très aiguë à cause des troubles hydroélectrolytiques, et en particulier l'hyperkaliémie lorsqu'elle ne peut pas être jugulée par le traitement médical, soit souvent dans un second temps lorsqu'apparaît une insuffisance rénale aiguë oligo-anurie. Alors il faut bien se souvenir que la myoglobine est une petite molécule de l'ordre de 17 kilodalton, et donc elle n'est pas épurée par les membranes habituelles de dialyse ou d'hémofiltration, et même avec des débits élevés. Cependant, les membranes qui ont un haut cut-off vont être capables d'obtenir une clairance de la myoglobine de l'ordre de 45 à 100 ml par minute lorsqu'on utilise des débits d'hémofiltration entre 2000 et 3000 ml. Néanmoins, même s'il y a un intérêt théorique, prenez bien en compte qu'à ce jour, il n'y a aucune étude qui a démontré que ces techniques vont permettre d'avoir un bénéfice pour les patients, que ce soit en termes de mortalité, de durée de séjour ou même d'insuffisance rénale à court ou long terme. Et de même, comme vous le savez très bien, les grands essais randomisés, en particulier les études Akiki, ne plaident pas en faveur d'une initiation précoce, en tout cas plus précoce que les critères classiques d'épuration extrarénale, quelle que soit la cause de l'insuffisance rénale. Ainsi, on peut probablement retenir que si un patient doit être dialysé pour des critères standards, il est probablement intéressant de proposer l'utilisation d'une membrane capable d'épurer la myoglobine, ce d'autant plus si la dialyse est instaurée précocement, mais qu'il ne faut en aucun cas l'initier uniquement pour cette raison. Enfin, d'autres traitements ont pu être proposés au cours de la rhabdomyolyse, en particulier la mise en place d'une diurèse forcée par l'usage de furosémide et ou l'usage de mannitol, dans le but d'éliminer plus rapidement la myoglobine. Néanmoins, à l'heure actuelle, on considère qu'il ne faut pas utiliser ces traitements, car le risque finalement lié à leur utilisation est plus important que le bénéfice escompté. De même que l'utilisation d'antioxydants, de même que la N-acétylcystéine a pu être proposée, mais jusqu'alors tous les essais qui l'ont utilisé sont négatifs et donc il n'est pas recommandé d'en administrer à vos patients.
Enfin, cinquième question, quelle surveillance conseillez-vous en pratique au lit du malade ?
Alors la surveillance pratique au lit du malade en cas de rhabdomyolyse avec ou sans atteinte rénale, elle a encore pour principal but de guider la prise en charge thérapeutique grâce à une évaluation la plus précise possible de la volémie des malades. Cela nécessite donc la prise quotidienne, voire pluri-quotidienne du poids des patients, en particulier au début de la prise en charge, bien sûr lorsque là c'est possible, et l'usage, là encore dès que possible, de l'échographie cardiaque au lit du patient pour estimer au mieux la volémie et l'état hémodynamique du malade. En parallèle de cette surveillance, il faut également instaurer une surveillance horaire de la diurèse, au moins au début de la prise en charge, ainsi qu'une mesure quotidienne du pH urinaire. L'objectif étant de maintenir un pH urinaire supérieur à 6,5, car on sait qu'à ce seuil, seul 4% de l'hémoglobine est capable de précipiter, mais également inférieur à 7,5 pour éviter au contraire la précipitation phosphocalcique. Tandis qu'on vise habituellement un objectif de diurèse supérieur à 2 ml/kg et par heure. Et donc finalement, ces examens simples vont permettre de guider assez précisément la stratégie de remplissage vasculaire. Par exemple, le remplissage vasculaire peut être freiné lorsque le pH urinaire est supérieur à 6,5. De même, si un patient devient oligurique, alors que l'analyse hémodynamique et en particulier à l'ETT montre que le patient présente une volémie adéquate, eh bien là encore, on peut probablement freiner le remplissage vasculaire puisque la dysfonction rénale ne répondra plus à un remplissage supplémentaire et au contraire, le patient risque de développer des signes de surcharge. Et en parallèle, bien sûr, il faut bien entendu surveiller les signes de souffrance musculaire et la récidive de la cause initiale de la rhabdomyolyse selon les cas.
Merci docteur Idriss Boudabé de nous avoir parlé de la rhabdomyolyse en réanimation. À bientôt dans Ligne de mire.